Merci d'écouter RFI, il est 6h30 à Luanda et Paris, 5h30 en temps universel. Et le journal vous est présenté par Paul Lonsin-Spinelli. Bonjour Paul.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, cette visite de Félix Tshisekedi à Luanda pour remercier João Lourenço.
Le président angolais, longtemps médiateur du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, s'est mis en retrait en début de semaine. Il vient de prendre la tête de l'Union africaine pour un an. Il s'agissait de la première rencontre entre les deux présidents depuis l'entretien Félix Tshisekedi-Paul Kagame à Doha et l'échec des négociations avec le M23 prévu à Luanda. Au Soudan, l'armée régulière annonce reprendre Khartoum, la capitale jusque-là toujours contrôlée par les paramilitaires FSR. Le Soudan du Sud, lui, s'enfonce dans la crise et se rapproche de la guerre. Selon son porte-parole, le vice-président Riek Machar a été arrêté hier par les forces du président Salva Kiir. Boualem Sansal connaîtra le verdict de son procès ce matin. 10 ans de prison avaient été requis à l'encontre de l'écrivain franco-algérien qui est au cœur d'une crise diplomatique entre les deux pays. Et puis au Niger, les militaires pourront rester au pouvoir encore 5 ans. Abdourahmane Tiani a été officiellement nommé président hier. Une visite pour saluer le travail d'un médiateur de longue date dans les tensions entre République démocratique du Congo et Rwanda. Hier, Félix Tshisekedi s'est rendu à Luanda pour rencontrer son homologue angolais João Lourenço. Lors de leur entretien en tête-à-tête, les deux présidents ont de nouveau évoqué la crise sécuritaire dans l'est de la RDC où la FCM-23, soutenue par Kigali, est à l'offensive. Dossier que connaît donc très bien le dirigeant angolais, mais sur lequel il a dû se mettre en retrait en début de semaine, Pauline Azidi.
C'est la première rencontre depuis l'annonce du retrait de l'Angola de la médiation, depuis l'entretien entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha et depuis l'échec des négociations avec le M23 qui devait commencer à Luanda. Il y avait donc probablement des choses à clarifier, laisse entendre un diplomate ici à Kinshasa. Le président congolais s'est donc rendu à Luanda pour une visite de quelques heures, comme il l'avait déjà fait plusieurs fois ces dernières semaines. L'Angola est un pays ami qui a beaucoup fait pour aider, il fallait à tout prix éviter les incompréhensions, confie-t-on, du côté de la présidence congolaise. D'ailleurs, le ministre angolais des Affaires étrangères a expliqué que les deux chefs d'État avaient convenu de maintenir une concertation et des consultations régulières. Kinshasa compte en effet toujours sur le soutien de João Lourenço, allié de poids, surtout que le chef de l'État angolais vient de prendre la tête de l'Union africaine pour une année. Pauline Azidi, Kinshasa. RFI.
Après 6 mois d'offensive, l'armée soudanaise assure avoir repris Khartoum aux paramilitaires FSR. Hier soir, après les captures consécutives du palais présidentiel et de l'aéroport, le général Al-Bourhan, chef de l'armée régulière, parlait même de libération de la capitale. Si la guerre civile a officiellement pris fin en 2018 au Soudan du Sud avec la signature d'un fragile accord de paix, celui-ci menace désormais de voler en éclats. Hier soir, le premier vice-président Riek Machar a en effet été interpellé puis placé en résidence surveillée par les forces de sécurité sud-soudanaises du président Salva Kiir. C'est ce qu'indique le porte-parole de Riek Machar. On ne sait pas précisément dans quelles conditions il est détenu, mais l'ONU s'inquiète et appelle les parties à la retenue. Florence Mietto.
C'est une évolution de la crise politique au Soudan du Sud aussi crainte qu'attendue. Les rumeurs d'une arrestation imminente de Riek Machar allaient bon train depuis début mars, lorsque la crise dans la région du Haut-Nil, au nord-est du pays, avait conduit à l'arrestation de plusieurs officiels de son parti à Djouba. Le placement du leader d'opposition en résidence surveillée fait planer un doute très important sur le processus de paix sud-soudanais. Cette détention constitue une violation de l'accord de paix, selon Pal Maïdeng, porte-parole du parti de Riek Machar. Il appelle la communauté internationale à s'assurer de la sécurité physique de Riek Machar. Nicolas Haysom, le chef de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, a réagi dans un communiqué. Les amendements unilatéraux à l'accord de paix risquent de ramener le pays à un état de guerre. Cela ne va pas seulement dévaster le Soudan du Sud, mais la région tout entière. Fin de citation. La crise politique actuelle s'est envenimée lorsqu'une milice nuère, réputée proche de Riek Machar, Bachar a pris une base de l'armée sud-soudanaise à Nasir début mars, puis tué son commandant ainsi qu'un pilote de l'ONU. Florence Mietto, Djouba, RFI.
En Algérie, Boualem Sansal, dans l'attente du verdict de son procès, le juge qui a reçu l'écrivain franco-algérien la semaine dernière doit rendre son jugement ce matin. Arrêté à la mi-novembre, l'essayiste encourt jusqu'à 10 ans de prison pour des propos tenus dans un média français d'extrême droite. Son cas est même devenu symbolique des tensions qui électrisent actuellement les relations entre la France et l'Algérie. Retour sur le début de cette affaire avec Paul Lorgerie.
Boualem Sansal a été arrêté peu de temps après sa descente de l'avion à l'aéroport d'Alger le 16 novembre dernier. Très vite, il a été accusé par les autorités algériennes d'atteinte à l'intégrité du territoire et d'intelligence avec des parties étrangères pour des propos tenus sur la question épineuse de la frontière entre le Maroc et l'Algérie. La semaine dernière, lors d'un procès qui a duré près de 30 minutes, Boualem Sansal a tenu à se défendre seul, malgré la présence d'un avocat qui lui avait été commis d'office. Son conseil français, maître François Zimré, n'ayant jamais obtenu de visa pour se rendre à Alger. Si la charge de l'intelligence avec l'ennemi a été abandonnée, le parquet a tout de même requis 10 ans de prison ainsi que 1 million de dinars d'amende contre l'écrivain de 80 ans atteint d'un cancer. Il est notamment accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national, d'atteinte aux institutions et à l'armée et d'atteinte à l'ordre public. Une affaire qui a provoqué l'émoi de la classe politique française. Le 27 janvier, une proposition de résolution européenne a été déposée par des députés du Parti Renaissance pour demander sa libération. Une résolution qui a été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le 30 avril prochain.
Paul Lorgerie. Près de 3 mois après sa condamnation en première instance pour offense et diffamation envers le chef de la junte guinéenne Mamadi Doumbouya, le procès en appel de l'opposant Alioubaa a commencé hier. Le président du mouvement démocratique libéral avait été condamné en janvier dernier à 2 ans de prison ferme. À 9 mois de la présidentielle en Centrafrique, le pouvoir tâtonne dans sa gestion de l'opposition, alors que le gouvernement avait d'abord interdit mardi sa manifestation prévue le 4 avril, la mobilisation pourra finalement avoir lieu. Décision du ministre de l'Intérieur hier sur instruction de Faustin Archange Touadéra, le président actuel qui devrait briguer un nouveau mandat en fin d'année, alors que le contexte préélectoral semble pour le moment se tendre, François Mazet.
Deux frères de l'ex-premier ministre d'Ondra arrêtés et poursuivis pour activités subversives et tentatives d'empoisonnement. Un meeting de l'ex-candidat à la présidentielle Anice et Georges Dologuélé empêché. La marche des opposants du BRDC interdite puis autorisée alors que les meetings pro-Touadéra s'enchaînent. Pour les critiques des autorités, cette succession d'événements n'est pas neutre. La sérénité a disparu dans les rangs du pouvoir, estime un des leaders de l'opposition qui se satisfait néanmoins du rétropédalage du ministre de l'Intérieur. De bonnes sources, Bangui serait sous pression de la part de ses partenaires internationaux qui demandent un véritable dialogue politique avant d'accepter de financer les élections. Ceux qui payent très cher pour la stabilité ne peuvent pas tout laisser passer, note Martin Zigele, le porte-parole du BRDC, qui dénonce les manigances d'organisations haineuses contre toute forme d'opposition. La société civile s'inquiète de tensions politiques si loin de l'échéance présidentielle prévue en toute fin d'année et note également des dissensions au sein même du pouvoir. L'influent ministre conseiller Fidel Gwangjika n'a pas hésité à tacler les voyous et les imbéciles à l'origine, selon lui, d'un montage grossier contre la fratrie d'Ondra et qui ternirait l'image du chef de l'État.
François Mazet, au cours de sa conférence de presse hebdomadaire hier, la porte-parole de la MINUSCA a indiqué que la mission de l'ONU suivait de près la situation politique dans le pays. Elle encourage les acteurs politiques à faire preuve de consensus et à mener des discussions constructives en vue de créer un climat apaisé pour aller vers des élections crédibles et inclusives. La MINUSCA étudiera la possibilité de sécuriser la manifestation de l'opposition le 4 avril. Au Niger, en revanche, pas d'élection présidentielle en vue. Les militaires peuvent désormais rester au pouvoir 5 ans de plus jusqu'en mars 2030. C'est ce que prévoit la charte de la refondation promulguée hier, un texte qui a valeur de constitution et qui reprend les conclusions et les recommandations des assises nationales qui s'étaient tenues en février dernier à Niamey. Dans le même temps, le chef de la junte, Abdourahmane Tiani, a été officiellement investi président et promu général d'armée 5 étoiles. Lisa Fabian.
La promulgation de la charte de la refondation du Niger a donné lieu à une cérémonie d'investiture en forme d'autopromotion pour le général Abdourahmane Tchiani.
Il s'agit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, chef de l'administration.
Le chef de la junte pourra occuper ses nouvelles fonctions pendant au moins 5 ans, puisque la charte, qui a valeur constitutionnelle, fixe la période de la transition à 60 mois, modulable en fonction notamment de la situation sécuritaire au Niger. Abdourahmane Tchiani s'est engagé en faveur de l'unité.
Je tiens à réitérer mon engagement solennel à toujours œuvrer pour le pardon et la réconciliation entre Nigériens, pour l'unité nationale.
D'autres mesures ont été définitivement adoptées ce mercredi, a annoncé le secrétaire général Mahamane Roufaï Lawali.
Le général d'armée Abdourahmane Tchiani a signé ce jour mercredi 26 mars une ordonnance relative au partis politiques. Au terme de cette ordonnance, les partis politiques sont dissous. Le général d'armée Abdourahmane Tchiani ordonne la mise en œuvre de la recommandation ici des assises nationales relative à la mise en liberté de certaines personnes prévenues ou condamnées, civiles et militaires.
La charte prévoit encore que l'installation de bases militaires étrangères au Niger fasse désormais l'objet d'une consultation populaire.
Lisa Fabian, un fervent défenseur d'Israël nommé ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud. Le nom de Brent Bozell a été dévoilé hier par Donald Trump. L'Afrique du Sud qui accuse l'État hébreu de commettre un génocide à Gaza. La plainte de Pretoria visant Israël devant la Cour internationale de justice avait d'ailleurs provoqué la colère du locataire de la Maison-Blanche. Donald Trump qui a aussi décidé de couper les aides à l'Afrique du Sud, l'accusant de traiter injustement les populations blanches. C'est la première cause de mortalité infantile dans le monde. La malnutrition est un fléau qui touche un enfant de moins de 5 ans sur 4. Alors pour lutter contre la faim, acteurs politiques du monde entier, banques de développement, ONG et sociétés civiles se réunissent à partir d'aujourd'hui à Paris pour le sommet Nutrition pour la croissance, un rendez-vous qui va s'étaler sur 2 jours. À Tokyo, lors du dernier événement de ce type, plus de 27 milliards de dollars avaient été mobilisés. Cette année, la France accueille environ 75 délégations étatiques qui tenteront de trouver des solutions malgré le siège laissé vide par un acteur clé, Charlotte Cosset.
Grands absents, les États-Unis, illustration d'un contexte compliqué. Baisse de l'aide au développement, multiplication des conflits, redirection des budgets des États vers la défense. Le défi, mettre plus à contribution et de manière coordonnée le secteur privé, la philanthropie et les organisations internationales. Parmi les objectifs, montrer qu'investir dans l'alimentation saine et durable est profitable. La Banque mondiale l'a mise en avant. Pour 1 euro investi dans la nutrition, c'est une retombée économique de 23 euros. Des enfants bien nourris, c'est 33% de chances de plus pour ces futurs adultes d'échapper à la pauvreté. Surtout, l'inaction a un coût, 41 000 milliards de dollars dans la prochaine décennie, la moitié à cause de la dénutrition, l'autre moitié à cause de l'obésité. Les besoins pour de nouveaux modèles agricoles sont également au cœur des enjeux. Le changement climatique a un fort impact, plus 2 degrés pourrait entraîner la faim pour 189 millions de personnes supplémentaires dans le monde.
Charlotte Cosset est tout de suite, Andréane Mélard pour vous accompagner dans RFI Matin.
Et merci Paul Lonsin-Spinelli, c'était le journal sur RFI, 6h43 à Paris. Tout de suite, l'info.